Chapitre 5. Merci d'avoir accepté, me félicite Okodolo. Le diamant des îles est amarré à Port Mew, le plus gros des yachts de la Calanque. Le soleil s'amuse à ricocher contre les falaises blanches pour transformer en four l'étroite vallée. Debout sur le pont, je tente de suivre la danse noire de l'ombre d'un pin maritime, tout en regrettant déjà d'avoir écouté Véronique et d'être venu. « On attend le détective de Fox Company pour prendre la mer », précise Okodolo. « Il ne devrait pas tarder. » Le Camerounais souffre aussi de la chaleur. Chaque pas sur le bateau paraît lui coûter un litre d'eau. « Il s'appelle Andy. Vous ferez équipe ensemble. » J'attends. Le goutte à goutte dans mon dos égrène les secondes. Un bruit enfin. Une Vespa rouge. Un motard se gare sur le quai. Une silhouette petite et fine ôte son casque. Je prends d'abord le détective de Fox Company pour un adolescent. Cheveux courts et roux, jeans serrés et t-shirt orange à capuche. Avant qu'il se retourne, une fille. Andy est une fille. Elle saute d'un bond sur le pont du Diamant des Îles et me tend la main, tout sourire. Son visage est rond comme la lune. Une lune rousse. Ou plutôt, une lune vanille poudrée de flocons de cannelle. Andy, stagiaire chez Fox Company. La gamine a l'air d'avoir 20 ans. Peut-être même de moins. Ou de plus maxi. La Fox Company a envoyé une apprentie. Okodolo ne semble pas s'en émouvoir. Il largue les amarres. Cap sur l'île de Rio. Le yacht vogue à vive allure. Oko a placé le stylo Parker 51 rouillé sous une petite vitrine de plexiglas.
Ce stylo plume, explique le businessman. Est la troisième découverte majeure permettant de résoudre le mystère de la disparition de Saint-Exupéry. Le 31 juillet 1944, Antoine de Saint-Exupéry a décollé de Borgo en Corse, tôt le matin, à bord d'un avion américain, un bombardier P-38 Lightning, pour une mission de reconnaissance jusqu'à Grenoble. Saint-Exupéry ne répondra à aucun appel radio. À 14h30, son carburant est épuisé. À 15h30, il est porté disparu. Il ne réapparaîtra jamais. Certains ont évoqué d'abord qu'il ait pu se poser en Suisse ou dans le Vercors pour rejoindre la résistance. On cherchera ensuite sans succès des traces de l'épave de son avion au large de Saint-Raphaël, suite à des témoignages de pilotes allemands, mais surtout parce que la maison de famille des Saint-Exupéry, le château d'Aguet, y surplombe la mer. Pendant plus de 50 ans, aucun indice, aucun début de piste ne sera découvert. Jusqu'à ce que la vérité éclate en septembre 1998. Ici, au large de Marseille, un pêcheur, Jean-Claude Bianco, remonte dans ses filets une gourmette d'argent. Bien qu'ayant longtemps séjourné dans l'eau, l'inscription sur le bijou reste lisible. Antoine de Saint-Exupéry, Consuelo, aux bons soins de Renal and Hitchcock Incorporated, 386, 4e avenue, New York City, USA. Le mystère est enfin levé. Saint-Exupéry a coulé quelque part sous nos pieds.
La petite stagiaire de la Fox Company, qui jusque-là avait écouté sagement, intervient soudainement. Elle agite sa main, telle une élève assez sûre d'elle pour interrompre son prof en plein cours. « Ça, déclare-t-elle, c'est ce que tout le monde croit. » Elle redresse les épaules et ébouriffe ses cheveux en pic de hérisson. Je remarque une rose tatouée dans le bas de son cou. « Le mystère résolu ?» insiste Andy avec un adorable sourire. « Perso, cette histoire de gourmette, je n'y ai jamais cru. » Oko sourit lui aussi. Visiblement, il attendait avec impatience le début du débat.
« C'est pourtant la version officielle.
précise avec calme le businessman. « C'est surtout une version providentielle », réplique Andy. « Le périmètre de recherche entre la Corse et les Alpes représente plus de 800 000 km². Rien qu'en mer, des centaines de milliers de mètres cubes d'eau. Et comme par hasard, on va repêcher à plus de 100 mètres de profondeur une gourmette de 30 grammes et résoudre ainsi le plus grand mystère dormant sous la Méditerranée. En général, je suis plutôt naïve, mais de là à avaler un tel miracle... » Andy ne parvient pas à rester en place. Elle sautille sur le pont, telle une souris, à m'en donner le tournis. Soit elle est une spécialiste bluffante de syntaxe, soit elle a révisé toute la nuit.
« Cette gourmette existe bel et bien »,
argumente Oko.
« Avec le nom de Saint-Exupéry, de sa femme, et l'adresse de son éditeur à New York gravée dessus. »
« Ah, ça !» répond Andy. « Tout est écrit. Tout est si bien expliqué sur cette gourmette repêchée qu'il est impossible de passer à côté. Il y a juste un petit détail qui cloche. Avant que ce pêcheur ne la sorte de son filet, personne n'en avait jamais entendu parler. Aucune trace. Personne ne sait d'où elle vient. Des experts ont visionné des centaines de photos de Saint-Ex. Ils n'en portaient jamais. Et quand à force de chercher, on finit par en dénicher une offerte à Saint-Exupéry par sa grande amie Sylvia Hamilton, à New York, quelques mois avant sa mort, en échange du manuscrit original du Petit Prince, on découvre que cette fameuse gourmette n'était pas en argent, mais en or. Badaboum. Pas grave, on finit par bricoler l'hypothèse boiteuse d'un cadeau de Consuelo ou de son éditeur à Antoine, dont personne n'a jamais eu la preuve. Tiens donc, Saint-Exupéry aurait porté deux gourmettes. Une de chaque amoureuse. Je ne suis peut-être pas très maligne, mais si on réfléchit un minimum, il est évident que le morceau d'argent rouillé repêché par Jean-Claude Bianco est un faux. Ça a d'ailleurs été la réaction unanime de tous les journaux de l'époque. Le pêcheur a été traité de faussaire, avec procès perdu par lui à la clé. Oko coupe le moteur face à l'île de Rio. La mer est incroyablement claire. On croirait presque en voir le fond.
C'est vrai, Andy. Au début, personne n'a cru à cette gourmette. Et pour en avoir le cœur net, des plongeurs ont effectué des recherches à l'endroit où elle a été trouvée. Exactement là où nous nous situons. En mai 2000, ils découvrent la carlingue d'un avion de chasse. Après avoir pris le temps de repêcher les débris, puis de les expertiser, la réponse définitive tombe en septembre 2003. Le matricule déchiffré sur l'une des pièces, 2734L, correspond à celui de l'avion de Saint-Exupéry. Les reliques sont exposées au musée aéronautique du Bourget. Fin du mystère. Fin de la polémique. Saint-Exupéry est mort ici.
Andy baisse les yeux vers l'eau et éclate de rire, comme si les étoiles de mer s'étaient d'un coup transformées en grelots. Ça, c'est le pompon de toute cette manipulation. La gourmette, à laquelle personne ne croyait, devient authentique uniquement parce qu'on a découvert une carcasse d'avion à proximité. Et cette carcasse d'avion est forcément celle de Saint-Exupéry, puisqu'elle a coulé pile là où l'on a repêché la gourmette. Sauf que vous oubliez de préciser que dans un premier temps, sous nos pieds, c'est un moteur d'avion allemand qu'on a sorti de l'eau. Puis des pièces d'avion américains. Mélangées, dans toute l'immensité de la Méditerranée, deux avions se seraient écrasés exactement au même endroit. Et tout le monde a accepté ça. Croyez au hasard si vous voulez, mais moi, quand les coïncidences s'accumulent, je préfère penser que les indices ont été soigneusement semés par un mystérieux petit pousset. J'observe le match entre Oko et Andy, fasciné.
Il n'y a pas que des preuves matérielles, vous le savez, Andy. Un pilote allemand, Horst Ripper, a affirmé avoir abattu un avion américain le 31 juillet près de Marseille et être persuadé qu'il s'agissait de Saint-Exupéry.
Et le gentil Horst ne l'a avoué que 60 ans après la guerre, alors qu'il avait 90 ans, une fois que la fameuse épave a été découverte. Et il a même ajouté qu'il était un lecteur passionné des livres de Saint-Exupéry avant la Seconde Guerre mondiale et que jamais il ne pourrait se pardonner d'avoir abattu son auteur favori. Croyez-le si vous voulez, moi, je refuse de prendre au sérieux un témoignage aussi farfelu d'un type qui prétend aussi avoir reçu des décorations de guerre allemande dont personne n'a jamais eu la preuve. Qui, comme par hasard, le 31 juillet 1944, volait seul. et dont le fait d'armes, abattre ce bombardier américain, n'a été consigné nulle part. Et d'ailleurs, même si ce Horst Ripper était sincère, rien ne prouve que sa cible ait été l'avion de Saint-Exupéry. Ce 31 juillet 1944, au moins 3 autres pilotes allemands ont certifié avoir abattu des P-38 américains dans le sud de la France, de Castellane à Monte-Carlo. Impossible à identifier. Des tas de chercheurs ont essayé. Aucune archive militaire ne permet d'établir la vérité. Oko se tourne vers l'île de Riou.
Par contre, des témoins dignes de foi, des pêcheurs de l'île, affirment avoir découvert, à la fin de la guerre, le corps d'un aviateur emmailloté dans son parachute. Aucune trace du corps, même si en 1965, on a retrouvé un squelette enseveli sous des pierres sur l'île de Riou,
qui sera identifié des années plus tard comme un pilote de guerre allemand. Et le squelette était celui d'un homme de moins de 35 ans. Saint-Exupéry en avait 44. Oko sourit.
Bravo, Andy. Vous avez superbement travaillé votre dossier. Toute cette affaire est née de l'incroyable découverte de la fameuse gourmette. Mais si je vous suis, s'il s'agit d'un coup monté ou d'un canular, quel intérêt aurait eu ce pêcheur marseillais à l'organiser ? Personne n'a jamais pu mettre en doute sa bonne foi. Il a même été décoré de la Légion d'honneur.
Oh, je suis certaine que ce brave capitaine était sincère. Mais il n'était pas tout seul sur son bateau. Il a suffi qu'un des membres de son équipage dépose discrètement la gourmette dans le filet de pêche, et hop, le tour est joué. Faire couler un morceau de tôle d'avion au fond de la mer n'est pas non plus bien difficile.
Pour quelle raison monter une telle arnaque ?
Oula ! Vous le savez aussi bien que moi, monsieur le milliardaire. Les raisons ne manquent pas. Réécrire l'histoire, protéger un secret, dissimuler la vérité, détourner les recherches. Par exemple, une question étrange n'a jamais trouvé de réponse. Que pouvait bien fabriquer Saint-Exupéry au large de Marseille ? La ligne droite de sa mission, de la Corse à Grenoble, passe par Nice, voire par Saint-Raphaël. Marseille est à près de 200 kilomètres. D'ailleurs, la mère de Saint-Ex, Marie, est persuadée d'avoir entendu son fils survoler le château d'Aguet le jour de sa disparition. Autre question non résolue. On n'a jamais retrouvé le cadavre de Saint-Exupéry ? Une gourmette, mais aucun squelette. Alors même si ce foutu bijou était bien celui de Saint-Exupéry, ce que je ne crois pas une seconde, et même s'il l'avait porté au poignet lors de son dernier vol, bien que personne ne s'en souvienne, ça ne prouve pas pour autant que Saint-Ex soit mort noyé ici au fond de l'eau. Un autre soldat allemand, Karl Böhm, chargé des secours militaires en Méditerranée pendant la guerre, a affirmé peu avant sa mort avoir recueilli en mer un pilote blessé à la jambe qui prétendait être un écrivain célèbre. L'écrivain prisonnier aurait demandé à ce qu'on jette par-dessus bord tout document, carte ou papier pouvant l'identifier, puis aurait été remis aux autorités allemandes pour être interrogé. A-t-il survécu ? A-t-il été libéré ? Nul ne sait. Encore un mystère. Encore un secret. Oko paraît passionné, surpris aussi, autant par les informations délivrées par la petite stagiaire que par sa vivacité d'esprit.
Un secret, Andy. Quel secret ? À quoi pensez-vous ?
À rien, et à tout. Saint-Exupéry est-il mort au combat pour la France, abattu par Horst Ripper au large de l'île de Riou ? S'est-il suicidé après avoir survolé une dernière fois la maison de sa mère ? A-t-il survécu et été fait prisonnier ? Ou existe-t-il une autre possibilité que personne n'a envisagée ? Tenez, à Borgo, en Corse, le soir d'avant sa dernière mission, Saint-Ex a effectué, comme à son habitude, quelques tours de magie pour ses amis, des tours de cartes, puis est parti vers minuit. Il n'a pas dormi à la base. Il n'est réapparu que le matin à 8 heures pour monter dans son avion. Personne ne sait où il a passé sa dernière nuit. Par contre, tout le monde savait qu'il s'agissait de son dernier vol. Saint-Exupéry, trop âgé, allait être démobilisé le lendemain. Encore une coïncidence sacrément bizarre, non ? Être abattu le jour de sa dernière mission. Il a laissé deux lettres en évidence sur la table de son bureau. La première, pour sa maîtresse, Nelly de Vogüé, la grande rivale de sa femme Consuelo. C'est Nelly qui récupérera toutes les notes laissées par Saint-Exupéry dans ses valises, qui fera de lui un héros national et écrira sa légende posthume. Quand elle meurt en 2003, elle dépose toutes ses archives à la Bibliothèque nationale avec ordre de ne les ouvrir que 50 ans après sa mort. Encore un autre sacré mystère. Andy reprend son souffle. Ses mains sont moites de sueur. Elle les éponge sur ses cheveux hérissons. Je prends pour la première fois la parole, pressé de connaître la fin. Vous avez dit que Saint-Exupéry avait laissé deux lettres. À qui était destinée la seconde ? À Pierre Dalloz, chef de maquis dans le Vercors. Savez-vous par quel mot elle se termine ? Avant même que je réponde, Andy récite quatre phrases d'une voix claire. Si je suis descendu, je ne regretterai absolument rien. La termitière future m'épouvante. Et je hais leur vertu de robot. Moi, j'étais fait pour être jardinier. Les mots me frappent au cœur. À la fois sublime et désespéré. Saint-Ex savait forcément qu'ils étaient les derniers. Qui, après les avoir lus, pourrait le nier? Pendant nos échanges, Oko a soulevé le plexiglas et pris le stylo entre ses mains.
Vous avez parfaitement raison, Andy. Dans la liste des objets personnels emportés par Saint-Exupéry lors de sa dernière mission, il n'est nullement fait mention d'une gourmette. Par contre, son stylo Parker 51, qu'il ne quittait jamais, est noté. J'ai commencé à faire appel à un certain nombre d'experts, de scientifiques, de bureaux d'études, qui, avec des technologies sophistiquées, affirment que...
Andy fixe incrédule le stylo et soupire. Je hais leur vertu de robot.